BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission l'association de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Josée Etondo, présidente de l'AMDIS. L'AMDIS, c'est l'association mantaise pour le développement et l'insertion sociale. Marie-Josée Etondo, bonjour.
Bonjour.
Alors, donc l'association mantaise pour le développement et l'insertion sociale, concrètement, votre activité, c'est l'alphabétisation, l'apprentissage de la langue française pour les personnes qui en ont besoin.
Exactement, oui. Alors, c'est une association qui est relativement ancienne, puisqu'elle a été créée en 1993 et qui s'occupait au départ de l'insertion au sens large. Mais depuis, je pense, une vingtaine d'années, l'activité unique, c'est l'alphabétisation, donc des cours de français pour la population locale.
Alors justement, tant que vous l'évoquez, donc avant cela, on va dire que l'action était un peu plus large. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement ?
Alors à cette époque-là, je ne faisais pas partie de l'association. J'ai intégré l'association en 2006 comme bénévole. Et je suis présidente depuis 2016.
D'accord. Mais vous savez quelles actions menait l'association avant ?
Oui, c'était aussi bien du soutien scolaire que du logement, du travail, enfin tout ce qui peut aider les populations en difficulté.
À qui concrètement s'adresse l'association ?
L'association s'adresse uniquement aux femmes. Alors, les femmes du Val-Fouré essentiellement, mais pas uniquement, hein. Les femmes de la région mantaise, on va dire. Donc, des femmes qui ont un problème au niveau du français, un gros problème.
Et alors, au niveau de l'équipe, vous êtes combien ?
Nous sommes 8 bénévoles.
D'accord. Et donc, toutes, vous enseignez le français ?
Le français, oui.
D'accord.
Oui.
Et vous avez un diplôme pour ça ou
aucun.
Non. Et du coup, vous arrivez quand même à avoir.
Personnellement, je n'ai aucune formation d'enseignante. Hein. J'ai appris sur le tas.
Bon, j'imagine qu'avec l'expérience, vous avez développé votre pédagogie envers les élèves.
Oui, sachant que chaque bénévole a la pédagogie qu'il souhaite. Hein. Il n'y a pas de règles.
Et vous avez combien d'élèves ?
Alors, on a, aux alentours de 50 élèves qui s'inscrivent.
D'accord.
Bon, ça ne veut pas dire que toutes sont là toute l'année, mais bon, au départ, ça représente quand même beaucoup d'élèves. C'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup de bénévoles.
Et du coup, ça fait des classes qui, au maximum, vous acceptez des classes de combien d'élèves pour un apprentissage qui se fait dans de bonnes conditions ?
8 maximum. Mais moins, ce serait mieux. D'autant plus que les niveaux sont quand même très, très hétérogènes.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ? Vous mettez en place des différents niveaux de classe ?
On essaye, mais c'est très difficile.
Oui, pourquoi ?
Parce qu'il y en a qui veulent absolument s'inscrire, on n'a pas forcément le créneau qui correspond à leur niveau. Il y en a qui parlent un peu français, mais qui ont besoin d'écrire et de lire. D'autres, rien du tout. Hein, sachant que ce sont des femmes au foyer, qui n'ont vraiment pas eu l'occasion, même chez elles, d'avoir une scolarité dans leur enfance. Hein.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour elles dans l'apprentissage ? Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels vous faites face ?
Bah déjà, pour moi, l'obstacle le plus important, c'est le fait qu'elles ne comprennent rien du français.
D'accord,
faire passer un message, une explication, c'est un peu compliqué, mais on y arrive quand même. Et puis, je dirais que le plus difficile, c'est quand même la parole, parler.
D'accord.
Hein, elles arrivent à déchiffrer, à écrire un peu. Mais parler, ça reste la plus grosse difficulté.
Et alors, pour parler un peu de comment vous travaillez, comment vous leur enseignez le français ?
On commence par l'alphabet, tout simplement, c'est la base. Ensuite, on fait plutôt de la méthode, on va dire, syllabique. Et puis, on assemble, on fait des petites phrases, on essaie de, d'avancer comme ça.
Vous faites des petits exercices
Oui, des exercices de lecture, d'écriture.
Et vous faites des mises en situation aussi parce que pour le début, j'imagine que pour les premiers niveaux, voilà, donc on est sur des bases, sur les bases, hein, l'apprentissage des bases, et plus on progresse, plus on va aller faire des choses plus techniques et des mises en situation sur la vie de tous les jours, notamment le volet administratif qui est important aussi pour ces femmes.
Alors on essaye, mais moi j'ai pu constater personnellement que ça avait du mal à fonctionner. Elles ne sont pas très aptes à ce genre d'exercice, disons.
Et donc du coup, c'est des élèves régulières, comment ça se passe? Alors on va parler de façon plus générale, hein, on reviendra après sur la crise sanitaire, mais de façon plus générale, c'est des cours qui sont dispensés à quel...
Alors c'est 2 fois 2 heures par semaine. Alors nous le faisons ça dans un appartement au Valfouré, 14 rue Marie-Laurencin. Donc on dispose de 3 pièces, donc il peut y avoir 3 groupes simultanément.
Malheureusement, la crise sanitaire a stoppé vos activités. Hein. Vous aviez alors à plusieurs reprises, hein, j'imagine. Il y a eu la première vague en mars 2020, ça a arrêté vos activités.
Oui, tout à fait.
Vous avez pu reprendre ensuite en...
On avait repris donc fin septembre.
Fin septembre, donc ça a duré un mois.
Ça a duré un mois, oui. Ouais.
Et donc depuis fin octobre, vous n'avez plus repris les cours en présentiel?
Non, pas du tout.
Et donc on le disait en off, il n'est pas question de pouvoir enseigner la langue en distanciel avec ces femmes.
Non. Ne serait-ce que pour des questions de matériel et puis de maîtrise de l'outil aussi, informatique, hein, bien sûr. Et même de la part des enseignants, on n'est pas non plus très performante à ce niveau-là.
Il n'y aurait pas des solutions comme par exemple faire des cours en extérieur, trouver un petit endroit pour faire des cours en extérieur, ou est-ce que c'est trop compliqué?
Non, effectivement, ça aurait pu être une idée, une solution, oui, mais auquel, à vrai dire, je n'ai pas pensé.
Donc là, vous espérez reprendre en septembre, hein, on espère que la situation va s'améliorer. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui vous empêcheraient de reprendre en septembre?
Alors, on a un problème avec notre local qui, depuis plus d'un an, on a observé des infiltrations d'eau qui sont dues à une cause extérieure à l'appartement. Et nous avons beaucoup de mal à ce que le bailleur fasse des travaux pour résoudre ce problème. Donc ça aussi, ça reste un point d'interrogation quant à la reprise effective des cours en septembre.
Il y a de bonnes chances de trouver une solution d'ici là?
Ça semble avancer, mais c'est très très long. D'autant plus que je ne suis pas sur place et que les échanges ne sont pas faciles.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous auriez besoin d'enseignants dans la langue du français. Qu'est-ce que vous recherchez chez un...
Juste des gens motivés qui ont envie de transmettre. Donc. Et ça, je pense que tout le monde est apte à le faire. Il n'y a pas besoin de compétences particulières.
Mais des qualités, sinon, des qualités de...
Qualités de patience, d'écoute.
Et du coup, vous avez dit 50 élèves, une cinquantaine d'élèves. C'est un chiffre maximal, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient intéressées que vous n'avez pas pu accepter dans vos cours?
Ça arrive, oui. Oui, ça arrive.
Par manque de place?
Par manque de place, oui. Oui, la demande est vraiment très importante.
Pour ces femmes-là qui donc n'ont pas eu de cours de votre part depuis 9 mois, est-ce que vous êtes inquiet lorsqu'il va falloir reprendre les cours? Est-ce que vous êtes inquiet que le niveau est baissé et qu'il va falloir reprendre les bases?
Oui, je pense qu'il va falloir repartir quasiment à zéro. Et je pense aussi qu'on risque d'avoir aussi des personnes qui... Hein, le décrochage, ça existe partout, ouais. Même dans les associations.
Pourquoi l'association n'ouvre ses cours qu'aux femmes?
Alors là, je pense que c'est historique.
Ouais.
Hein, mais je n'ai pas de raison particulière.
Est-ce qu'il y aura un projet à l'avenir de l'ouvrir aux enfants, aux hommes?
Si c'était ouvert aux hommes, il faudrait séparer les cours hommes et les cours femmes.
D'accord. Et puis, il faudrait également plus de bénévoles.
Et plus de bénévoles, bien sûr, oui.
D'accord.
Sachant que nous, nos cours, bon, il y a l'apprentissage du français, mais pas uniquement. C'est aussi un lieu de rencontre, d'échange entre les femmes. On aborde aussi d'autres sujets que l'apprentissage du français. On peut aborder que ce soit la santé, l'alimentation, la géographie, les institutions françaises. Enfin, c'est beaucoup plus large, quoi.
Et elles arrivent à comprendre ce que vous leur enseignez ?
Oui, oui, elles sont. En plus, elles sont très, très demandeuses. Elles sont tout à fait conscientes du handicap que ça représente pour elles, hein, le fait de ne pas parler français. Elles sont donc dépendantes du mari ou des enfants pour les moindres actions.
Vous avez dit donc que c'était également un lieu d'échange entre elles. Est-ce que, bon, j'imagine qu'il y a des élèves régulières dans l'eau, donc ça crée aussi une émulation entre elles et
oui,
une
tout à fait. Et elles s'entraident beaucoup, oui.
Oui,
oui, oui, oui, oui.
Ça, c'est un point vraiment positif pour l'association.
C'est aussi ce qui est très agréable, c'est parce qu'on voit vraiment une entraide et un désir d'apprendre.
Et en plus, comme elles sont en petit comité dans chaque classe, bah, ça renforce ce lien de proximité.
Tout à fait, oui, oui.
Je reviens au cours, particulièrement à la forme de vos cours. Donc, est-ce qu'il y a aussi des discussions ? Vous avez dit que vous parliez de plusieurs choses. Est-ce que voilà, le fait de discuter, notamment aussi de leur vie, pourquoi pas, de leur vie personnelle, ça amène à la progression des élèves ?
Dans un cours, il faut être attentif aussi à ce que les élèves aient bien compris. Souvent, on croit qu'elles ont compris et en fait, elles n'ont pas compris ou elles ont compris autre chose. Donc, ça soulève quelques malentendus parfois qui peuvent être assez comiques. Ou un mot qu'elles croient reconnaître. Par exemple, le mot bicyclette est utilisé en arabe. Donc, pour elles, c'est un mot arabe.
D'accord.
Et quand je leur dis « mais non, c'est un mot français », ça les surprend beaucoup.
Et vous leur donnez des exercices à faire
à la
chez
maison,
elles
ouais. Non.
Non.
Non, non, non.
Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez être amené à faire ?
J'y tiens pas particulièrement, moi. Non,
non pourquoi ?
Bah non, j'estime qu'elles ont déjà suffisamment à faire chez elles, donc j'ai pas envie de leur donner plus à faire.
Et est-ce que vous leur conseillez des lectures pour les amener à prendre l'habitude de lire ?
Je leur conseille de lire chaque fois qu'elles voient un mot, oui, d'essayer de le lire, de le déchiffrer, oui. Que ce soit sur un emballage, un journal, quelque chose comme ça, oui, bien sûr, oui.
Et au cours de toutes ces années passées à enseigner la langue française, qu'est-ce que vous retenez de ce travail ?
Ben, ce qui me semble important à dire, c'est que c'est un travail, entre guillemets, très enrichissant par les échanges, par la découverte d'une population qu'on n'a pas vraiment l'habitude de côtoyer. Et ça amène aussi à une redécouverte personnelle de la langue française.
Ah oui ?
Ah oui. On s'aperçoit que notre langue, ben, elle n'est pas si facile que ça. Chaque fois qu'on énonce une règle, on trouve tout un tas d'exceptions, ce qui est un peu difficile à faire passer, mais ça reste vraiment passionnant.
Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'association ?
Ben, je l'ai rejoint juste quand je suis arrivée en retraite et j'avais envie de faire du bénévolat. Et c'est vrai que l'idée d'alphabétisation me plaisait. J'ai toujours aimé transmettre mes connaissances, donc je trouvais que c'était à ma portée. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à rencontrer toutes ces difficultés. Je pensais trouver une population plutôt française, ayant eu des problèmes scolaires et donc du retard, plutôt donc de l'illettrisme, alors que là, c'était vraiment tout à fait autre chose.
Donc on parlait tout à l'heure de ce que faisait l'association avant, c'est-à-dire une action un peu plus large, notamment l'insertion sociale. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez redévelopper ou juste se concentrer sur l'alphabétisation, ça vous convient ?
Oui, ça me convient parce que je n'ai pas de compétences dans le domaine social ou juridique ou quoi que ce soit, donc l'alphabétisation me suffit amplement.
Et est-ce que parmi votre équipe, il y a quand même des enseignants de formation, on va dire ?
Je pense qu'il y en a eu au départ, oui. C'était beaucoup, oui, des enseignants ou des gens du milieu hospitalier, donc qui étaient plus sensibilisés à ces questions-là.
Alors pour conclure, Marie-Josée Etondo, si l'on souhaite rejoindre votre équipe en tant que bénévole pour enseigner la langue française, comment vous contacte-t-on ?
Alors on peut me contacter par téléphone au 06 30 73 15 20, par mail marie-josée sans accent point etondo etondo @orange.fr.
Et alors pour les personnes qui souhaitent bénéficier de vos cours, il faut s'inscrire. Je suppose.
Il faut s'inscrire, oui. Donc les inscriptions auront lieu, si tout va bien, fin septembre, au local de l'association, 17 rue Marie-Laurencin, au Val-Fouré.
Marie-Josée Etondo, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi à 19h30. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.